RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Fatima Hidbounois, professeur de français. Bruno Poncé, cheminot. Et nous sommes avec Antoine Diers, consultant. C'est la deuxième heure des GG. En attendant, Rachida Dati, la ministre de la Culture, tout à l'heure, dans la troisième heure, elle sera avec nous à 11h. Mais d'ici là, on aura parlé du bras de fer avec Donald Trump, le président de la République Emmanuel Macron qui lui tient tête, qui le traite de brute. Bravo Macron, est-ce qu'on peut le dire? On en parlera à 10h20. Mais d'abord, si on s'intéressait à ce que nous-mêmes on peut faire si vraiment aujourd'hui on devient anti-américain, anti-Trump et qu'on veut lui envoyer un signal fort, est-ce qu'on doit boycotter? Boycotter les produits américains, et peut-être que ça peut passer déjà par un geste fort vis-à-vis de la prochaine Coupe du Monde, puisque vous savez qu'elle est accueillie par trois pays, le Mexique, les États-Unis et le Canada, et c'est Éric Coquerel, le président de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale, qui appelle au boycott de la Coupe du Monde aux États-Unis, ou même de la déplacer, c'est ce qu'il demande à la FIFA.
On a un État qui enfreint le droit international, qui agresse ses voisins, qui menace d'envahir le Groenland, donc un territoire en tout cas lié à l'Union Européenne, qui est en train de prendre des mesures, y compris vers la Coupe du Monde, en interdisant les signes LGBT, en interdisant des supporters d'une quinzaine d'États. Sur place, on a aujourd'hui des milices fascistes qui sont en train d'effrayer tout le monde. C'est un cadre qui ne peut pas accueillir la Coupe du Monde. Donc de ce point de vue-là, il y a le Mexique et le Canada qui existent, qui vont accueillir des matchs. Nous, on propose qu'ils en accueillent un peu plus.
We will make America great again.
Est-ce qu'on doit envoyer un signal fort à Donald Trump, boycotter les produits américains, dire les matchs de Coupe du Monde, c'est au Canada, au Mexique et pas aux États-Unis? Vous venez en parler au 32-16.
On a failli perdre Donald Trump cette nuit, parce qu'il était dans un avion en route pour la Suisse, il y a eu un problème technique, l'avion a fait demi-tour, ils en ont pris un autre. Donc finalement, le président américain est sain et sauf, il va arriver à Davos. Et voilà ce qu'il a dit, vous verrez jusqu'où je peux aller, notamment sur le Groenland. Donc tout le monde attend avec le pop-corn à la main ce que va bien dire Trump tout à l'heure à Davos, parce que c'est du spectacle permanent, Trump. C'est du spectacle. Tous les jours, il y a une déclaration fracassante, une menace. Alors là, en ce moment, dans son viseur, ce sont les Européens qui disent non à l'annexion du Groenland. La France a pris la tête. On parlait tout à l'heure d'Emmanuel Macron qui, avec ses lunettes aviateurs, hier a tenu un discours offensif. Mais Donald Trump, comment faut-il répliquer? Pour l'instant, c'est surtout des discours. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Boycotter les produits américains? Alors ce matin on faisait la liste, est-ce qu'on arrête de regarder Netflix, est-ce qu'on arrête d'aller sur Google, d'acheter sur Amazon, d'utiliser son smartphone à Apple, est-ce que Facebook, Instagram, tout ce qui est numérique, on arrête, puisque nous on a pas grand chose, hein, on n'a pas de réseaux sociaux européens, est-ce que effectivement il faut boycotter la Coupe du Monde? Et alors bon, là Éric Coquerel, c'est un anti-américanisme, c'est vraiment l'anti-américanisme primaire, mais la France insoumise est dans cette démarche depuis toujours. Donc là il dit il faut jouer qu'au Canada, au Mexique. On sait que ça ne se fera pas, mais est-ce qu'il faut aller vers ça?
Non, mais enfin, oui, déjà, juste pour répondre à Coquerel, il est mignon. Mais 2018, la Coupe du Monde, elle se fait en Russie. Ils n'avaient pas un peu envoyé déjà l'Ukraine avant? 2022, on est au Qatar. Les droits de l'homme, c'est vrai qu'au Qatar, les mecs, ils ont emprunté leur passeport pour qu'ils fassent les stades. Enfin, à un moment donné.
Les JO en Chine.
Ouais, tu sais, moi, c'est pour ça d'ailleurs que je ne serai jamais affilié à un parti. Moi, tu sais, le truc à géométrie variable, ça me rend dingue en fait. Moi, je veux bien, tu dis ce que tu veux sur les États-Unis, t'as raison. Trump, en ce moment, il fait de la merde, on est d'accord, et on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, ok, voilà. Mais mec, à un moment donné, 2018-2022, on n'était quand même pas dans des pays ultra-libéraux. Hein. Je veux dire, en 2014, c'était au Brésil. Au Brésil, quand on voit quand ils rentrent dans les favelas, qu'ils tirent à balles réelles sur tout le monde, je suis pas sûr non plus que ça soit des pays très démocratiques. Donc à un moment donné, stop, on va se détendre un peu, et puis on va revenir un peu plus de raison. Moi, je suis contre le boycott. Je trouve que c'est une connerie, parce qu'en fait, ça servira à rien et c'est du vent. Par contre, des taxes. Fous des taxes sur les produits américains à 30-50% comme lui fait. Ah, tu taxes à 25, on taxe à 25. Et puis après, en fait, la nature est en horreur du vide. T'as plus les moyens de te payer ton smartphone. Moi, je peux plus me payer mon Apple parce que je vais pas acheter un téléphone 4 000 €. Eh ben, dans ce cas-là, ben, j'irai me trouver un téléphone différent. Les fringues, moi, je porte des Nike. Si demain, ma paire de Nike, elle a 500 balles, je vais pas acheter une paire de baskets à 500 balles. J'irai trouver un modèle ailleurs et c'est
Adidas.
Tout. Ouais, j'ai Adidas, qui est aussi à moitié américain, mais ça, c'est autre chose. Ah, c'est moi, j'irai.
Donc, si on boycotte les produits américains, on boycotte aussi les produits chinois, on boycotte
voilà,
aussi.
Alors qu'en fait, voilà. la vraie réponse, moi je trouve, mais c'est une réponse qu'on n'a pas par les politiques.
Pourquoi parce que grand chose.
Ils font voilà,
non,
et puis,
c'est pas comment on va
ils font que de baver les politiques. Mais à un moment donné, faut bien se dire une chose.
On pourra même plus
si
bouffer.
Ta réponse au boycott ou à tout ce qui vient des taxes américaines ou même les chinois. Ben, on refait des usines en France. Et puis moi demain, quand un jour j'ai voulu acheter un Kawai, moi quand un jour j'ai voulu acheter un Kawai produit français,
et pas de réponse.
Non, t'as dit quoi? J'ai pas entendu. Je parle en même temps.
C'est au Pepsi. Toi.
Ouais, moi je bois du Pepsi. Bah, je boirais de la flotte. Je boirais autre chose en fait. Moi si demain, moi tiens une fois j'ai goûté le Brescola. Si Brescola, j'arrive à en trouver à Paris à la place du Brescola zéro, j'en boirais. Moi je te dis, à un moment donné j'ai voulu acheter du Kawai. Tu vas chez le Coq Sportif, c'est plus fort en France. Et ben refais tous ces produits là en France et moi je m'habillerai que français.
Alors est-ce que Coquerel a raison? Bon, Coquerel a tort parce que c'est Coquerel et qu'en plus sa position elle est teintée d'idéologie. Mais moi j'ai regardé la balance commerciale. Je me suis dit tiens, on s'engage dans un boycott. Et en fait, j'ai découvert que l'Europe avait une balance excédentaire vis-à-vis des États-Unis. On envoie beaucoup de biens. Et je lisais notamment, on envoie beaucoup de médicaments. Les États-Unis ont une dépendance structurelle, tant qualitative que quantitative, aux médicaments produits en Union européenne.
C'est pour ça qu'ils ont acheté de l'Iprane.
On envoie des autos, des avions, beaucoup de luxe, beaucoup de vin.
Ce qui énerve d'ailleurs Donald Trump.
Oui, en revanche, les États-Unis ont une puissance terrible avec les GAFAM sur tout ce qui est services numériques. Là, on se fait exploser et ils refont une partie de la balance commerciale grâce aux GAFAM. Ça dit quoi? Ça dit une chose, ça dit mais pourquoi l'Union européenne est aussi faible sur les services numériques? Pourquoi on s'est laissé coloniser par les États-Unis sur le plan numérique? Eh bien, avant de poser une question d'un boycott, etc., même si je suis pour le rapport de force vis-à-vis de Trump, mais recréons vite un écosystème numérique européen pour ne plus avoir cette dépendance vis-à-vis du numérique.
C'est pas
américain.
Perdu d'avance.
Bah moi je pense que c'est jamais perdu. Tu peux
penser quand même.
En fait c'est nos bonhommes et nos chercheurs qui sont rachetés par les États-Unis.
Qu'est-ce que tu serais prêt à faire toi alors?
Mais si on doit
un titre comme ça individuel pour
alors moi pour le coup si on nous supprime Amazon, Facebook, Instagram, etc.,
tu t'en remettras.
Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, aurait dit Jacques Chirac, tu vois, c'est pas grave, on s'en remettra très bien et on peut faire à la chinoise, j'hésite pas à le dire, à la chinoise, le réseau social national. Trump a bien fait son réseau social. Ben, faisons le réseau européen pour être tendance.
Alors, Fatima. La crise est révélatrice de pas mal de problèmes en France et en Europe. Mais on va pas régler les choses uniquement parce que Bruno Poncé va arrêter le coca et se mettre au Brescola. On va pas régler.
C'est déjà un grand pas.
Arrêter d'écouter de la musique américaine.
Et écouter de la musique américaine.
Mais moi demain, deux secondes. C'est moi demain boycott, mec, je suis à poil. Hein. Ouais, je porte des Levi's, des Nike et du Carhartt.
Tu peux écouter
du Carhartt,
écouter les Anglais, le rock anglais.
Et tu vois plus rien avec.
Ah mais moi je suis à poil complètement.
Alors mon objectif.
Je suis totalement américanisé en fait.
Complètement.
Mon objectif est absolument pas de mettre Bruno Poncé nu. Nous nous en passons.
Tu as tort.
Non.
Propos sexiste.
Peut-être que ça peut marcher pour Trump. Mais en tout cas, moi,
on
les deux.
Bruno Poncé à poil au Groenland.
Attendez, je finis parce que c'était très sérieux.
Oui, tu as raison. Excuse-nous.
Les deux problèmes que je vois, moi. Parce qu'on parle de boycott. Un boycott, c'est un rapport de force. J'ai fait la même chose. On a fait exactement la même chose hier. On allait voir. Mais d'un point de vue économique, ça se joue pas là. Moi, ce que je regardais surtout, c'est la question de la souveraineté numérique et surtout de notre soumission militaire. Là, quand on s'y plonge, on découvre. Alors, pour la souveraineté numérique, on en parle, c'est les GAFA. Je vous rappelle que celui qui a voulu réguler tout ça, Thierry Breton. Résultat, qu'est-ce qu'il a eu? Il est interdit, il n'a plus le droit d'aller aux États-Unis, il n'a plus de visa.
Les pauvres américains,
donc,
il a le droit de venir sur RMC ce matin.
Oui, ce matin encore. Intimidation à fond. Et la deuxième chose, c'est encore mieux pour la petite soumission militaire qu'on peut. J'invite tout le monde à aller voir. Il y a ce qu'on appelle. C'est assez dingue, je me suis notée parce que vraiment, j'allais pas. Voilà. Sur les drones, par exemple, on a des drones, la MQ9, je découvre le truc.
Renault va fabriquer des drones.
Et je vois que les États-Unis, lorsqu'ils nous vendent quelque chose, ils ont les produits américains, il y a le concept de l'ITAR. Ouais. Et notre lutte comme Européens et comme Français, c'est vraiment le concept d'ITAR free, dans le sens où, jusqu'à présent, quand on a un produit américain, ou même avec un élément américain, les Américains ont leur mot à dire sur l'utilisation. À la fin, on ne peut pas les vendre non plus. Et donc, vous imaginez le degré de soumission dans lequel ça nous met.
Mais t'as même plus de soumission. T'as l'exemple des F-35, les avions de chasse. Les Européens ont acheté des avions de chasse américains au lieu d'acheter le Rafale français. Les Danois vont défendre le Groenland avec des F-35 que Trump, il appuie sur un bouton, l'avion il bouge plus.
Et ça, cette question-là, elle n'est pas sur l'Europe. En 2006, l'Espagne n'a pas pu vendre des avions militaires parce que justement, il les avait achetés et il voulait les vendre au Venezuela et à cause de l'ITAR, l'Amérique a
perdu. Du coup, l'Europe est en train de réagir puisque l'Allemagne se réarme. Donc, Emmanuel Macron dit il faut se réarmer. Il y a un budget supplémentaire. Là, il y a une prise de conscience
des rafales. Sur l'Europe, selon moi, face aux États-Unis d'Amérique,
des canons César.
Il faut des États-Unis d'Europe. Et nous n'avons pas des États-Unis d'Europe.
27, c'est compliqué.
Tu voudrais plus d'Europe.
Les Américains, ils sont 50.
Mais quelqu'un qui ne disait pas plus d'Europe, mieux ensemble. D'Europe, je déteste ces formules. Moi, je suis souverainiste. Moi, je suis plutôt pour une. Mais oui, complètement. Donc, je suis pour une France forte qui ne perd pas le pouvoir d'elle-même. En revanche, des collaborations fortes. Parce que là, vous voyez, pour le Mercosur, on n'est même pas d'accord entre nous. Ça veut dire qu'on n'a pas une vraie Europe. Puisqu'on a des pays qui chacun veut manager pour ses propres intérêts. Donc, finalement, on ne peut même pas mettre l'Europe face aux États-Unis d'Amérique, puisqu'il nous faut des États-Unis d'Europe avec des intérêts en commun et pas des guéguerres dès qu'on a des intérêts divergents.
Frédéric dans la Nièvre. Bonjour, mon cher Frédéric.
Bonjour à tous. Bonjour à toute l'équipe.
Alors, est-ce qu'on répond fermement à Trump, à ses provocations? Et on lui dit
il faut pas. Je pense que la meilleure solution, c'est il faut surtout pas se rabaisser à sa violence. C'est une pardonnez-moi l'expression, c'est une grande gueule. Les grandes gueules, on sait comment ça se passe, ça aboie, mais au final, ça va pas bien loin. Pourquoi ça va pas bien loin? Parce que aux États-Unis, toutes ces taxes ont été plus ou moins décrédibilisées avec le Sénat américain qui les a rejetées. Non, je crois qu'il y a quelque chose comme ça là. Toutes les taxes sont
inconstitutionnelles. Il y a eu quand même des augmentations de droits de douane, ça, qui ont été validées.
Oui, mais je veux dire, les prochaines taxes, là, cette surenchère de taxes...
Oui, les 200% sur le vin et champagne, personne n'y croit, oui.
Voilà, et surtout que, n'oublions pas, limite terme arrive très bientôt, et que, comme disait sur une chaîne concurrente M. Bauer, limite terme arrive, et Trump est très très mal placé au niveau des mid-termes.
C'est vrai.
Sa politique étrangère, je pense que va être extrêmement impactée avec ses futures décisions.
Par exemple, le Groenland, parce que là on parlait de guerre commerciale, mais en fait le sujet là en ce moment c'est le Groenland. Est-ce qu'il faut laisser faire? Est-ce qu'il faut se battre pour le Groenland? Ce territoire dont personne ne parlait il y a encore 15 jours.
Oui, mais le Groenland, après c'est l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi le Groenland? Parce qu'en fait Trump, ce qu'il veut, c'est démanteler l'OTAN. Voilà, c'est ça. En fait, il veut créer une discorde interne en Europe avec cette politique de défense européenne qui c'est l'arlésienne, hein, tout le monde en parle, personne n'a vu. Moi, je suis un ancien militaire, à chaque fois qu'on nous bassinait avec l'armée européenne, finalement c'était l'OTAN et les Américains. Ils passaient à la caisse et voilà.
Oui, nous, on était bien contents d'avoir sortir de cette dépendance.
Donc vous dites ne pas répondre aux provocations et rodomontades de Trump, attendons les élections, les Américains, faisons de la politique, faisons bloc. Alors attendez Frédéric, parce que Louis, qui du côté des Bouches-du-Rhône veut intervenir aussi. Louis, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez entendu, Frédéric mise plutôt sur la patience et la sanction politique avec les élections demi-mandat. Et vous en dites quoi, Louis? Est-ce qu'on doit au contraire boycotter ou pas? Dites-moi.
Oui, attendre les élections demi-mandat, oui, pourquoi pas. Après tout, Trump est aussi soumis à ce vote. Donc, non, ce que je veux dire simplement, c'est qu'on ne se rend pas compte de la dépendance qu'on a vis-à-vis des États-Unis. Donc je vous signale que strictement tous les moyens de paiement en France sont liés aux Américains. Même quand vous payez votre simple carte bleue sur laquelle est marqué le nom de votre banque, le système est américain. Donc on peut très bien, parce que Trump il est capable de tout, on peut très bien imaginer que en réaction à un boycott par exemple du foot, là, on peut très bien imaginer que Trump dise écoutez, on s'occupe plus des paiements en Europe, on interdit même des cartes bancaires en France. ben vous allez voir le bordel que ça sera chez nous. Donc, c'est-à-dire, on peut rien faire. C'est ça qui est absolument terrible.
Voilà. Oui. Donc, voilà. Attention.
Rappellerai que la carte à puce a été inventée par un Français. Parce
oui.
que
Roland Morillon.
Ne pas de sentiment d'infériorité vis-à-vis des Américains.
Et surtout, quand vous dites qu'on ne peut rien faire, on peut déjà constater, là, se rendre compte que cette soumission numérique, est-ce qu'on l'accepte ou pas? Et on peut aussi se dire, là, il y a des choses sur l'intelligence artificielle, il y a encore un train à prendre. Dire là, on pourra dire dans deux ans et demi, trois ans, que c'est peut-être trop tard. Mais là, il y a encore un train à prendre.
Le problème, la soumission numérique, on peut peut-être en sortir, mais il faudra plusieurs années. Donc là, on est en train de régler un problème maintenant, y compris pour le Groenland, dont je rappelle que c'est quand même une colonie danoise. Hein, il faut quand même pas exagérer.
Je vois pas
très bien pourquoi on se mêle d'une colonie danoise, alors que quand on nous a...
Le Danemark fait partie de l'OTAN aussi.
Je suis désolé. La France avait une colonie en Algérie. Strictement personne ne nous a soutenus en Europe le jour où ils ont voulu être indépendants. Point barre.
Mais les Inuits, enfin les habitants du Groenland ne demandent pas à être indépendants. Les habitants du Groenland, a priori, préfèrent rester danois que devenir américains.
D'ailleurs, c'est représentatif de comment on
traite. Après, ils sont 57 000. Excusez-moi, ce n'est pas si sûr. Moi, j'ai vu des interviews de Groenlandais qui se posaient les questions pourquoi pas américains, et que si Trump était un peu intelligent, ce qu'il est peut-être quand même, il pourrait leur proposer une sorte d'indépendance.
Peut-être. Mais ça va peut-être se finir comme ça. Je suis d'accord. D'ailleurs, je préciserai que le Groenland n'est pas membre de l'Union européenne. Le Groenland était membre de la CE, qui était l'ancêtre de l'Union européenne, mais ils ont organisé un référendum dans les années 80, et les habitants ont dit non à l'Union européenne. Donc le Groenland ne fait pas partie de l'Union européenne.
Frédéric,
c'était sur des questions de pêche.
Frédéric,
à l'époque,
Louis, je vous remercie tous les deux. Allez-y, Frédéric.
Une dernière petite chose, une petite précision. Oui. Rappelons-nous que le Groenland a un accord de défense avec les États-Unis qui date de 50 ans.
Oui, il y a une base américaine.
Monsieur Bauer qui en parlait très bien. Le Groenland a eu une déclaration il y a 50 ans, comme quoi les États-Unis ont le droit de prépositionner des forces pour leur sécurité en cas de conflit majeur. Donc
ils y sont déjà.
Ils y sont déjà. C'est pas la même chose de faire un accord en termes de sécurité. On peut imaginer effectivement un partenariat entre le Danemark et les États-Unis. Qui existe déjà en fait. Là, c'est pas ce que veut Trump. Trump, il veut récupérer l'intégralité du territoire.
Frédéric, Louis, on a posé la question, faut-il boycotter les produits américains? Alors déjà, on va regarder ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Vous vous êtes prononcé, oui ou non, pour faire un bras d'honneur à Trump et lui dire c'est bon. Vous dites non à 53%, mais je pense que c'est plus un non réaliste de dire
c'est partagé quand même.
C'est pas possible. Non à 53%. Et puis alors après, là, est-ce qu'on peut dire quand même être fier de notre président Emmanuel Macron qui hier a dit à Trump c'est bon maintenant, moi je préfère le respect à la brutalité et on va faire face. Venez en discuter avec nous, on va réécouter Emmanuel Macron et on parlera de ses bellicres, ses binocles.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Avec les GG, vous discutez, vous prenez la parole au 32-16. On va continuer de parler du Groenland, de l'arrivée de Donald Trump. Ça va être le centre du monde, Davos, tout à l'heure. Trump vient avec, je ne sais plus combien, 8 ministres, je crois, et surtout une délégation de 800 personnes. Alors, il y a toute la sécurité qui est rattachée au président des États-Unis, bien évidemment. Et surtout, on va avoir des face-à-face, et le face-à-face avec notre président Macron.
Nous avons besoin de plus de croissance, de plus de stabilité dans ce monde. Mais nous préférons le respect plutôt que les brutes. Nous préférons la science au complotisme et nous préférons l'état de droit à la brutalité.
Il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte.
Ça marche toujours.
Il est beau, notre président. Quel bel homme.
Le président Macron, avec ses lunettes, qui répond à Trump et le traite de brut. Est-ce qu'on dit bravo Macron ?
Déjà, un mot quand même sur sa dégaine hier, parce qu'il est assez fort. Il a transformé un handicap physique, il a un problème à l'œil. On l'a vu d'ailleurs sur une photo, il avait l'œil rouge et gonflé, ouais. Donc on ne sait pas ce qu'il a, mais bon, visiblement c'est gênant. Et puis peut-être
Brigitte,
la lumière doit lui faire du mal. Donc il a décidé de mettre des lunettes de soleil. Il a décidé de mettre des lunettes à l'américaine. Alors on nous dit qu'elles sont françaises, ces lunettes, mais elles ressemblent à des lunettes d'une marque américaine aviateur. Et donc il y a ce côté américain de Macron, beau gosse, qui répond à Donald Trump avec un ton assez vindicatif. Hein. En fait, il a traité le président américain de brut hier. Alors beaucoup ont salué justement l'offensive de Emmanuel Macron. J'y vois quand même beaucoup de limites dans ce qu'il raconte, parce que c'est bien d'être offensif, mais il faut avoir les moyens d'être offensif et de montrer sa force. Et Arthur Berda, notre confrère du Figaro, disait ce matin assez justement, peut-on jouer les forts avec Trump si l'on est faible avec fort ? Olivier Faure. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est faible politiquement, il n'a plus de majorité, il est obligé de tout céder aux socialistes qui sont un groupe minoritaire à l'Assemblée nationale. Bref, il est en fin de parcours, et là Trump a raison de le souligner. Et voilà, est-ce que quand il monte à la tribune pour jouer les matadors, est-ce qu'on y croit ?
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Et après, il y a un vrai sujet, c'est que moi, je trouvais son discours était pas mal, mine de rien, parce que j'arrête pas de l'allumer à longueur de journée, parce qu'effectivement, il mérisse le poil. Mais je trouvais hier pas mal son discours. Par contre, il y a un sujet, c'est que qui est derrière lui en Europe ? Tu penses que Mélenchon pense comme lui ? Tu penses que le premier anglais ? Tu penses que les Allemands encore moins ? Qui aujourd'hui va dire à Macron, bah vas-y monte et on est tous avec toi ? Le problème, c'est que Macron, c'est comme nous quand on fait grève, il va se retourner derrière et puis tous ceux qui sont d'accord avec toi, ils sont où ? Ils sont partis où ?
C'est comme ce drive, en fait.
Ouais, ils sont partis où ? Tout le monde est d'accord avec toi, puis à la fin quand t'es dans la rue, ils sont où ? Ben voilà, c'est ça. Et Macron un jour il va se retourner, il va se dire merde, ils sont partis. Et puis par contre l'arrivée de Trump avec 800 personnes, ils vont envahir Davos ou quoi ? Enfin, je comprends. Enfin vraiment Trump c'est la
avec tout,
c'est vraiment le truc
les géants de la tech.
Toujours ça les Américains.
Ouais non mais lui c'est vraiment le rapport de force
les Américains, n'importe lequel débarque à Paris il y a 150 limousines.
Mais tu sais que t'as une anecdote de ouf. Une fois moi je suis en train de me balader, c'est le 13 juillet, je me balade en bas des Champs-Élysées, je passe devant l'ambassade américaine et à un moment donné je vois tout le monde dehors au garde à vous. Je dis, qu'est-ce qui leur prend? Et à un moment donné, j'entends un bruit énorme au-dessus de moi, l'avion. Et en fait, c'était Air Force One qui arrivait. Et donc, je pense qu'à l'époque, c'était Obama. Et ils étaient garde à vous devant l'avion. Les Américains, ils ont ce truc-là, en fait, ce côté force. Et toujours à montrer ça. Mais je trouve qu'en tout cas, un truc qui est sûr, c'est
que... j'aime bien ça.
Ah oui, la souverainiste.
Toi, tu voudrais qu'on fasse pareil?
Non, moi,
quand le président français passe au-dessus de nous, on est
en train t'es une dictatrice en jupe.
Non, mais à côté respect des institutions et de l'ordre, j'aime bien. Je trouve pas ça ridicule.
Qu'est-ce qu'ils vont apprendre nos gamins avec toi? Même pas la rébellion, rien du tout. Mais non.
Oui, mais c'est ça qu'on aime bien dans les films américains aussi.
C'est ce qu'on aime
bien. Vous aimez bien vous. Vous êtes les fans de Tom Cruise. Moi, je préfère Tom Cruise dans Né un 4 juillet.
Comment tu l'as trouvé, notre président, là, avec ses lunettes, avec son ton très affirmé?
Je regarde. Les gens n'ont pas écouté le discours parce que tout le monde commentait les lunettes.
Ça, c'est vrai. Fou.
Après, dans le discours, le problème, c'est qu'il est. On ne parle pas le même langage. Donald Trump parle. Oui. Le langage de Donald Trump, ce n'est pas le langage diplomatique.
C'est
le langage de l'ego et de l'argent. Voilà.
C'est ça.
Ego, et argent, et un langage simple. Intérêt. C'est vraiment ça. Et langage simple. Ce qui fait que, par exemple, les Suisses, regardez les Suisses, ils sont allés, délégation de patrons, Richemont, tout, voilà, ils étaient 8. Qu'est-ce qu'ils ont offert ? Une horloge Rolex, un lingot d'or, avec sur le lingot d'or le petit poinçon 45-47. Ils ont offert ça à Donald Trump. Donald Trump, oui, ils ont su me parler. Résultat, il a baissé les droits de douane des produits suisses de 39 à 15%. C'est pas rien. C'est plus que le lingot d'or. Vous voyez,
donc il y a un moment,
effectivement, il y a l'image. Lui, je pense que Emmanuel Macron construisait l'image de lui. Il, comment dire ? Moi, je vous dis depuis le début, il prépare son départ, Emmanuel Macron. Quelle image il va rester ? Donc, il veut avoir l'image d'un homme d'État. Donc, tout ce qu'il a dit, ça va.
Il veut être l'homme qui a
cédé face à la brutalité.
Qui a dit non à Trump et qui a sauvegardé l'Europe en quelque sorte.
Moi, j'ai rien à construire parce que de toute façon, l'image, je m'en fous. Donc, ce que je regarde, c'est le côté pragmatique. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? Et là, effectivement, la Suisse, ça marche, parce qu'elle parle le même langage que Trump. Donc, effectivement, quand on est pragmatique, on est plutôt dans ça. Voilà ce que j'en dis.
Romain veut intervenir. Je te donne la parole ensuite, Antoine. Romain, qui est auto-entrepreneur, est à Paris. Il nous écoute. Bonjour, Romain.
Ouais, bonjour l'équipe et bonne année à tout le monde.
Bonne année à vous aussi, Romain. Est-ce que vous avez dit bravo, monsieur le président, ou pas?
Ah non, pathétique. Là, j'en peux plus. Ça va être très, très long, là. Je crois qu'il reste un an et demi. Et en fait, bon, il nous a plombé d'un point de vue national, il a plombé le pays, c'était une présidence catastrophique pour le pays et pour l'avenir de mes enfants. Et puis là, j'ai le sentiment que simplement pour le profit de son image, il est en train de nous plomber également sur le plan international. Donc moi je suis très inquiet parce qu'il reste du temps. J'ai l'impression qu'il se fout complètement de l'avenir de nos enfants et de l'avenir de notre pays.
Si, justement, il défend les intérêts français et européens face à un Américain qui a envie de nous affaiblir. Les Américains aimeraient bien qu'on soit plus faible.
Oui, mais je crois qu'en fait, Donald Trump lui fait trop d'honneur parce qu'Emmanuel Macron, à mon avis, il ne sera pas suivi de beaucoup de pays. Et puis moi, je préférais simplement que les 15 soldats ou les 200 soldats qu'il a mis au Groenland, je préférais qu'il les mette à Marseille, à Grenoble. Déjà, il n'est pas capable de faire régner la paix à Châteauroux. Il veut aller taquiner les Américains. Qu'il mette les lunettes, qu'il aille en Algérie et qu'il ramène le journaliste. Voilà, c'est très fort. Donc là, en fait, nos impôts servent uniquement à financer son
image. Oui, c'est ce que disait Berda. On joue fort avec les Trump et faible avec les forts.
Voilà.
Avec FAUR.
Et voilà, et donc il faudra s'en souvenir, et les prochaines élections, surtout, voter pour l'avenir de vos enfants. Enfin, en tout cas, moi, je ne vote plus pour moi, mais je vais voter désormais pour l'avenir de mes enfants. Et avec ce type de personnage, franchement, voilà, je crois qu'on a pris beaucoup de retard.
C'est quand votre anniversaire, Romain ?
Ah, le 13 mars.
Est-ce qu'on vous offre les mêmes lunettes ?
Non, mais je pense que... Mais moi,
elles lui vont bien.
J'ai des lunettes.
Quelle est la marque française ?
J'ai des problèmes de vue, elle a des lunettes. Ouais, c'est beaucoup plus discret. Hein. Donc, en plus, il y avait ça. Donc voilà, c'est vraiment... Pour son image, il est prêt à sacrifier notre pays. Enfin, c'est catastrophique. Un peu à l'image des députés pour garder leur siège. C'est vraiment.
Je vois pas en quoi il le sacrifie. J'interpelle les grandes gueules. Au contraire, après, on est d'accord ou pas, mais il cherche quand même à plutôt défendre la position française, européenne. Rouleau compresseur américain.
Non, parce qu'en fait, il parle pas au nom des autres pays, en fait. Les autres pays,
ils attendent de voir aussi. Il faut toujours un leader ou quelqu'un qui emmène un peu.
Non, parce que chancelier allemand a d'ores et déjà dit que sur le Groenland, bon, il fallait voir. Mélanie.
D'accord. 27.
Donc, je cite les trois premiers. Les autres, je vais être.
Je suis pas sûr qu'Orban ou la Pologne soient d'accord avec Macron.
Je vais pas être méprisant avec les autres 27, mais enfin, l'Europe, la première puissance, c'est l'Allemagne, la deuxième c'est la France, la troisième c'est l'Italie. Sur les trois, il y en a deux contre un. Et voilà, c'est une réalité.
On peut peut-être arriver à mener une fronde avec les pays scandinaves.
Il est mignon,
il n'y a plus de off, c'est les grandes gueules.
Il a publié les SMS comme ça.
Là, on parlait des matchs de Ligue 1 et il me dit bon, ça va, là, on va à Toulouse, on vient de se qualifier en Coupe de France. Je pense que là, on va aligner deux victoires de suite. Ils ont pris 5-0 à Toulouse.
J'ai rien dit,
je trouvais qu'il était optimiste, naïf, ouais, c'était plaisir.
Mais il faut toujours être optimiste, il faut toujours y croire. Et puis après, tu te relèves.
Ouais, vous voulez pas acheter notre gardien de but Chevalier ?
Non, c'est bien.
Non, ça va.
Il est bien, Lucas.
Vas-y, Antoine, pardon.
Non, mais je vous ai tous écouté et j'ai un peu passé mon tour sur ce coup-là parce que j'ai du mal à avoir une position. J'adorerais que notre président soit en mesure de mener le bras de fer avec Trump. J'adorerais que la France soit le leader de l'Europe. J'ai envie d'y croire et en fait, c'est tout le contraire dans la réalité. Il faut être un peu lucide. C'est lunettes, en plus, me donne l'impression de voir un mauvais film où il y aurait Macron dépressif dans son palais de l'Élysée. C'est la fin de son mandat. Il découvre dans une boîte des lunettes magiques. Il les met sur lui et il devient très fort. Et il
super
devient
Macron.
Tête. Voilà, c'est super Macron. Et on est ridicule. Et en fait, j'aime mon pays. J'ai pas envie de le dévaloriser. Mais là, on est monté petit bras, quoi. On n'est pas solide.
Il est content à ses lunettes. Il est bien
Nicolas, paysagiste, l'ami Nicolas du côté du Vaucluse. Bonjour Nicolas.
Bonjour les GG.
Vous avez entendu, Romain disait c'est pathétique ce à quoi on est en train d'assister. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Nicolas ?
Moi, je...
Vous êtes aussi sévère ?
Je ne suis pas un fervent admirateur du président Macron. Mais voilà, j'ai envie d'y croire. Il y a une chose qu'il ne faudrait pas qu'on oublie, c'est qu'au mois de juin, on va y être très vite, il y a le G7 qui se passe en France, à Évian. Quelques encablures du siège de l'ONU également à Genève, ça peut être qu'un plus.
Ou est-ce qu'on en sera en juin? Peut-être qu'il aura envahi le Groenland entre temps.
Est-ce qu'il aura envahi la France?
Oui, peut-être.
C'est chaud, là. Ouais.
Et l'ONU, c'est à New York.
Que ça se fasse aussi vite, honnêtement, j'y crois pas. On sait que sur un G7, il peut se passer énormément de choses.
Il n'y aura pas de G7, hein.
Si.
Non, il devait y avoir un G7. Macron a proposé un G7 à Paris demain, puisque tout le monde était là et Trump a dit non. Ah oui, au mois de juin.
Il y a un G7 à Évian.
Enfin, d'ici là.
Il y a un G7 à Évian cette année.
Mais par exemple, vous qui trouvez que Macron nous défend bien, est-ce qu'il a raison de dire qu'il veut participer? Il demande un exercice de l'OTAN en Groenland. Il dit la France serait prête à y contribuer. Ça veut dire qu'on enverrait 200 soldats supplémentaires français en Groenland. C'est ce qu'il faut faire?
Là, c'est un peu de la...
La gesticulation.
C'est la gesticulation. Je pense que déjà aujourd'hui, ce qui va, ça va énormément discuter ensuite. Il faut montrer quand même les bras. Il faut gonfler les muscles. Tout à l'heure, vous disiez est-ce qu'il faut boycotter la Coupe du Monde. J'en sais rien, mettre des taxes, ça pourrait être, ça rentre dans le jeu. On a rien à perdre.
Enfin, faut pas se laisser faire. C'est ce que vous dites, Romain. Voilà, faut pas se laisser faire. Faut quand même
montrer les moyens. C'est ça la question.
Puisque Donald Trump aime le rapport de force, faut essayer de tenter de l'instaurer, au moins lui faire comprendre qu'on est prêt, quoi.
Et juste pour revenir sur ce que disait Olivier avec la petite blague faible avec fort, Olivier fort. C'est pas ça. L'image qu'on donne à l'extérieur, on peut ne pas être. C'est comme l'idée de laver son linge sale en public ou pas. C'est-à-dire, on peut avoir en France critiqué notre président, mais effectivement, quand il est à l'extérieur, on a envie d'être derrière lui. Et il peut faire semblant, parce que c'est aussi une guerre d'image. Donc moi, je lui en veux pas de faire semblant d'être fort. Vous voyez, parce que cette guerre,
Il est fort, qu'il est à la tête de la première puissance.
Il y a les deux choses. Ça veut dire le rapport de force, il va pas forcément jusqu'au bout. Ça veut dire que là où il est fort, Trump, c'est qu'il va aussi, c'est un peu la Mad Men stratégie là de Reagan. Ça veut dire on fait croire qu'on est fou aux autres parce que ça les déstabilise. Donc par exemple, il a souvent des formules quand on lui dit jusqu'où irez-vous, il dit vous verrez bien. Et ça angoisse.
Même la
blague que tu viens de faire en disant il aura peut-être envahi la France, on en rigole.
Non, mais c'est pas ça, il va enlever Macron comme il fait avec Maduro, tu verras.
Mais ça, c'est aussi
alors,
une force.
Alors, bras de fer contre Trump, est-ce qu'on dit bravo Macron? Et je remercie Romain et Nicolas d'avoir été dans les GG. Est-ce qu'on dit bravo Macron? Macron is back, non, 75%.
Je crois que Macron peut faire ce qu'il veut, je crois que plus personne n'y croit malheureusement.
Suivre avec les GG, propositions qui sont dans un livre, interdire la grève pendant les négociations et limiter le nombre de syndicats.
Comment on va faire Bruno Poncet?
C'est ça. Il est 11h20 et on en parle avec vous en attendant l'arrivée de Rachida Dati tout à l'heure à 11h.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.
1, 2, 3, 4. Les GG, les grandes gueules. Avec vous, bien évidemment, au 32-16 pour réagir, pour nous dire tout ce que vous pensez avec Fatima Hidbounoua, Antoine Diers et avec Bruno Poncet. On va parler maintenant des syndicats. Des syndicats et du droit de grève, parce que ce sont des propositions qui sont contenues dans un livre, interdire les appels à la grève parlant de négociations collectives ou limiter le nombre de syndicats. Que pensez-vous de ces propositions?
Alors, entendons-nous bien, ceux qui font ces propositions veulent sauver les syndicats. D'ailleurs, leur livre s'appelle « Sauver la démocratie sociale ». Ils estiment que les syndicats sont trop faibles en France. Il y en a trop et pas assez de gens syndiqués. Alors, la proposition est faite par un économiste et par deux sociologues. Ils proposent notamment d'interdire la grève lorsqu'il y a des négociations collectives, parce que l'objectif, selon eux, c'est apaiser les discussions, éviter les pressions pour négocier avec un flingue sur la tempe, c'est jamais très bon. Et puis, moins de syndicats pour des syndicats plus efficaces. Alors, autour de la table, on a un ex-syndicaliste, tu l'es plus?
Non, plus tout, non, j'ai plus de mandat.
T'es à Sudrail, Bruno?
Ouais, je suis toujours adhérent, mais je suis pas...
Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'il faut pas revoir la façon de faire en France?
Après, eux, ils ont leur point de vue, je pense, de libéraux et de
pas cette... sûr qu'ils ne soient très libéraux.
Mais je pense qu'ils ont surtout une vision du dialogue social très... très idéaliste, hein, parce que en fait ça marche pas comme ça, et on voudrait réellement, on voudrait tous ne pas avoir besoin de se mettre en grève. La grève est un outil, hein, c'est pas une finalité, hein. On voudrait ne pas avoir besoin de se mettre en grève quand tu discutes avec ton patron. On voudrait que quand t'arrives pour discuter avec ton patron, tu n'aies pas besoin d'un rapport de force pour commencer les discussions. Moi, j'ai participé à des NAO, derrière les négociations annuelles obligatoires qui sont sur les augmentations de salaire, où le DRH qu'on avait avant à l'époque à la SNCF, en fait, ça commençait à 13h ou 14h. C'était obligé de finir à 22h parce que tu vois, toutes les heures, il t'amenait un millième de pourcent, par exemple. J'exagère un peu, mais c'est ça. Donc, en fait, lui, il savait à quel point il voulait aller à 23h, mais de 14h à 23h, il s'amusait comme ça. C'est pas comme ça le dialogue social.
Ça veut dire que si on veut réformer les syndicats, faut aussi réformer les patrons.
Non, oui, puis le dialogue social,
le
en fait.
Le dialogue entre.
Et puis, lui, dans leur article, et puis, j'ai pas lu le bouquin, mais dans leur article, ils comparent avec l'Allemagne. On peut pas être comme les Allemands. Les Allemands, c'est des corporatisme, tout le monde est syndiqué, ils ont des caisses, ils ont des
oui, enfin, l'argent des syndicats forts et quand ils négocient, bah, oui. Tout le monde est d'accord sur la fin de la négociation et on l'applique.
Oui, mais nous on a un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui ils ont raison, on est à 8-10% maxi je crois de taux de syndicalisation en France dans la globalité. Aujourd'hui les gens se désintéressent à fond de ça, mais par contre, il faut aussi dire une chose, c'est que les patrons ont besoin se servent de la division des syndicats, se servent d'avoir des syndicats aux opposés et d'ailleurs
donc,
et on le voit aussi.
Les choses.
Non, mais on le voit aussi avec le syndicat agricole. En fait, aujourd'hui, tu vois, quand aujourd'hui la FNSEA a le droit d'aller jusqu'à l'Assemblée nationale, parce qu'ils ont eu le droit, et que les autres n'ont pas le droit de rentrer dans Paris, quand tu vois que la FNSEA, elle, défend certainement un tel type d'agriculture que défend une autre agriculture, ouais. En fait, t'es carrément divisé, tu peux pas avoir le même syndicat pour tout le monde.
Antoine, je vais être un peu radical, je pense pas qu'on ait trop de syndicats, je pense qu'on a un problème avec les syndicats qu'on a et le fonctionnement syndical.
Trop politisé.
Ils sont trop politisé et surtout réglementairement nous avons un monopole syndical, c'est-à-dire que la loi prévoit que seuls les syndicats officiels peuvent se présenter au premier tour de l'élection syndicale, ce qui fait qu'on va jamais changer les syndicats qu'on a, et donc j'ai même le sentiment que c'est une
sorte de monopole.
C'est pas vrai, c'est faux. Nous, moi, mon syndicat a été créé base d'un autre syndicat, donc ça veut dire qu'un jour on a pu se présenter à des élections.
Deuxième tour, non, je viens de te dire, attends, je viens de te dire, on ne peut pas se présenter au premier tour.
Au premier tour,
Bruno.
Mais vous écoutez, enfin,
bon, alors, explique-moi ce que c'est que le monopole syndical. Vas-y,
Il n'y a pas de monopole syndical. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, t'as des organisations syndicales.
Tout le monde peut se présenter au premier tour d'une élection syndicale. Non.
Bah, t'as beaucoup dans, ça dépend de la taille de ton entreprise. Dans certaines entreprises, t'es pas obligé d'être syndiqué pour te présenter. Moi, j'ai des copains qui étaient en CSE, ils ont jamais été syndiqués. Par contre, ce que toi, t'es en train de dire, c'est un refrain de l'extrême droite qui, avec l'époque de Le Pen, non mais je vais te dire la vérité,
mais
Le Pen à l'époque avait envoyé, je crois que c'était Maigret, pour créer des syndicats d'extrême droite, et en fait il y a eu une espèce de volonté de faire ça, ça a été contré parce que c'était illégal qu'un syndicat soit affilié autant à un parti politique.
Bah, on peut rigoler avec la CGT et le parti.
Oui, mais en fait il y a une vraie séparation des pouvoirs, alors qu'à l'époque Maigret n'était pas séparé de
la CGT et le PC.
On fait un débat technique. Moi je vais au bout de ce que je voulais dire. Je pense qu'il doit plus y avoir de monopole syndical, que tout le monde doit pouvoir se présenter, et surtout, le bout du bout, on ne doit plus financer les syndicats avec de l'argent public. On doit arrêter de donner l'argent
de mes impôts
à des syndicats. Juste les cotisations, ou alors le modèle allemand, où chaque salarié a une quote-part et il décide de l'attribuer à quelqu'un. Ouais. Et là, on aurait des syndicats vraiment représentatifs. Et donc, une chose est sûre, c'est que là, les syndicats, les patrons jouent une espèce de théâtre, ça refait la grève, etc.
Donc, ça serait au salarié de décider à qui il veut filer son argent.
Chaque année, tu dois cocher, ou alors tu coches « je le donne à personne », parce qu'il n'y en a aucun qui me convienne.
Moi, ce que j'apprécie dans ce livre-là et dans la démarche, c'est la pensée globale et des propositions concrètes. C'est-à-dire, leur livre, c'est du conflit au contrat. Donc, l'objectif, c'est de dépasser l'état où nous sommes, là. Et donc, on vous avait donné deux exemples, mais il y en a un troisième qui m'a plus intéressé, c'est faire participer, enfin, plus de représentants de salariés dans les conseils d'administration. Donc, ça veut dire, là, ils sont à peu près 15% dans les entreprises, dans les CA, dans les entreprises de plus de 1000 salariés. Mmh. L'idée, c'est qu'ils soient plus présents. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on pense en amont aussi. Ça veut dire, on pense pas simplement quand il y a le conflit, mais avant, comment faire pour que les salariés soient entendus,
Fatima,
en amont.
Fatima, je vais pas te couper, mais je vais juste te dire. Vas-y. Crois-tu que le fait d'avoir des administrateurs salariés comme il y a nous à la SNCF, ça change la direction de l'entreprise? Pas du tout. Parce qu'en fait, t'es juste dans un rôle de consultant, même pas de consultation, t'es juste là pour écouter. En fait, ça sert à rien. En fait, tu es en train de m'expliquer, c'est de, il n'y a pas de co-gestion. En fait, une entreprise, c'est pas une co-gestion, et surtout pas des grosses entreprises. Heureux. Donc, ça sert à que dalle.
SNCF, il y a toujours une co-gestion.
Non, il n'y a jamais eu de co-gestion.
L'éducation nationale aussi. Les syndicats, pendant des années.
Les syndicats, ils sont pas forts.
Moins forts.
Si tu compares, mais justement,
les syndicats et l'agriculture aussi.
La différence entre les syndicats de police et syndicats de professeurs, c'est justement les syndicats de police ont plus de poids et comme aussi pour plein de raisons, là où ils siègent et tout. Et donc c'est pour cette raison qu'il y a plus d'adhérents. Là, effectivement, chez les professeurs, il y a
non, mais très peu de collègues syndiqués. Parce que ça a beaucoup baissé. Mais pendant très longtemps, le ministère de l'Éducation nationale a été co-géré avec le premier des syndicats. Et c'est pour ça qu'il ne se passait pas grand-chose, parce qu'il ne fallait pas désespérer Billancourt.
Le gouvernement et les patrons qui aient autant de syndicats. Le pire, c'est l'Éducation nationale. L'Éducation nationale, je crois que dans chaque syndicat d'Éducation nationale, tu as le primaire, le secondaire et le tertiaire. Mmh. Tu as aussi le personnel éducatif qui est autour. Mmh. En fait, tu as toute cette représentativité qui fait que personne ne peut avoir la même idée, le même truc.
Plus de collectifs. Comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de collectifs qui se montrent? Par exemple, les agriculteurs, notre ami Jérôme Baille, il a lancé son propre collectif parce qu'ils ne se sentent plus représentés par les syndicats.
Mais vous êtes plein aussi.
Les infirmières, pourquoi les infirmières, elles ont monté des collectifs? On en a reçu beaucoup ici. Je me souviens qu'un collectif d'infirmières était devenu grande gueule de l'année parce qu'à un moment donné, elles ne veulent plus faire de la politique, elles ne veulent plus être dans une démarche révolutionnaire marxiste, elles veulent simplement du concret, se battre, obtenir ce qu'elles veulent, des augmentations de salaire.
Oui, moi je t'entends, mais rappelle-toi, quand moi mes collègues contrôleurs se sont mis en colère tout seuls.
C'est vrai.
Vous avez paniqué, le public a paniqué parce qu'il y a eu des trains de supprimer et ma boîte s'est paniquée.
C'est un peu gâché Noël quand même.
Ok, d'accord, mais dans ce cas-là, oui, mais c'est parce que ça.
Français qu'on pas pu aller
oui, mais
Noël,
hein. Tu vois, moi je suis d'accord, moi je serais d'accord pour l'autogestion et qu'en fin de compte les gens se mettent en grève quand ils veulent.
Non, mais ça serait
pire pour vous, ils seraient encore en train de plus grogner. Les patrons, ils pourraient dire à quel moment à qui je parle.
C'est pas ce que j'ai dit, moi.
C'est pas ce qu'il dit. Il constate, et on peut faire le même constat. Les gens se mettent en collectif parce que c'est des personnes qui vivent des choses insupportables, qu'ils voient sur le terrain. Et lorsqu'ils entendent les médias, par exemple, mais aussi leurs représentants parler à la grande voix, ils ne portent pas leur voix. Donc c'est non seulement des gens qui se sentent sans voix et qui sont du coup obligés de se bouger eux-mêmes, mais c'est pas du tout ce qu'ils souhaitent. Il y a plein de gens qui se disent, moi j'ai pas du tout envie de me lancer en politique, mais effectivement quand j'entends des choses, le manque de confiance.
Ouais, mais ça, moi je trouve ça. Gens... Là, ce que t'es en train de dire, tu vois, c'est ça le bout du bout. C'est qu'en fait, des gens comme toi ou comme qui que ce soit sur Terre me disent, moi j'ai des syndicats, je vais pas y aller. Non, mais en fait, moi, je te dis pas de te syndiquer, je te dis juste qu'à un moment donné, quand tu travailles quelque part, t'es acteur de ton boulot. Mais t'es acteur.
Oui, mais
moi, je suis désolé.
Que les politiques disaient, mais adhérer dans les partis politiques.
Non, je te dis pas ça. Moi, je dis d'être acteur. Être acteur, c'est pas forcément adhérer quelque part. Être acteur, c'est qu'à un moment donné, quand ton patron te dit, je fais ci, je fais ça, et ben que toi, t'es pas d'accord, tu dises pas, tiens, vous faites le syndicat, veulent parler pour moi. Moi, j'en ai marre de ça. Moi, le syndicat, ça me rendait dingue, c'est que les gens me disaient, ah, je suis d'accord avec toi, t'as raison de faire grève.
Oui, mais
non, c'est pas ingérable.
En fait, c'est à un moment donné, si toi demain t'es pas d'accord avec quelque chose, t'es pas envoyé quelqu'un pour le dire à ta place. Vas-y toi-même.
Normalement, c'est pour représenter
les autres.
C'est le comment dire, c'est la représentation.
Oui, bah tu vas me dire le contraire à l'instant. Oui, la présentation, les gens sont pas d'accord.
Non, mais ils ne sont pas assez.
Et ben dans ce cas-là, les gens quand ils sont pas d'accord avec toi, ben moi je suis d'accord pour les collectifs.
C'est
fini. Voilà les syndicats en France. C'est fini.
Non, elle a dit droite, elle a dit tout à l'heure, Fatima, c'est un vrai problème.
Dans un instant,
exagéré dans un milieu de droite et qu'on croit toujours que les Arabes et les Noirs sont de gauche tout le temps. Alors qu'en vrai.
Bah non, on a appris que t'étais souverainiste.
Dans un instant. Elle est Dupont-Aignantiste.
Madame Rachida Dati avec nous, la ministre de la Culture et candidate à la mairie de Paris.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.